Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce vendredi 9 avril, encore de nouvelles règles pour le vaccin AstraZeneca. Les moins de 55 ans déjà vaccinés avec une première dose auront leur deuxième avec un autre vaccin, Pfizer ou Moderna. Annonce de la Haute Autorité de Santé. Alors peut-on vraiment mélanger les sérums? Qu'est-ce que ça change? Nous serons en ligne avec le docteur Lelièvre, chef des maladies infectieuses à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Les vacances près de chez vous, 10 km de déplacement autorisés. Le Covid bouscule les congés de printemps. Nous verrons quels sont les justificatifs à fournir si vous vous échappez pour faire garder votre enfant. Dans RTL Midi aussi, nous reviendrons sur cet épisode de gel catastrophique pour nos arboriculteurs, nos viticulteurs. Presque tout le pays est touché. Nous serons en ligne avec un vigneron de l'Hérault qui a presque tout perdu. Un braquage à l'hôtel Georges V à Paris, près des Champs-Élysées. Les voleurs sont repartis avec 100 000 euros de bijoux. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, c'était le spleen de Charles Baudelaire, né il y a 200 ans pile aujourd'hui. Et côté météo, c'est un peu le spleen du jour. Bonjour Valérie Quintin.
Bonjour, oui, c'est vrai que ça commence à charger un petit peu dans le sud-ouest, notamment à l'ouest en général, puisqu'on a des grains orageux qui circulent de la Bretagne et de la Normandie jusqu'aux Pyrénées. Ailleurs, on va s'en sortir encore assez bien cet après-midi, avec un temps ensoleillé entre les Alpes et la Corse et des éclaircies pavillaines du nord au nord-est. Les températures, ça remonte un petit peu. 12 degrés à Cherbourg cet après-midi, 14 à Lille, 15 à Bastia, 17 à Paris, 19 degrés à Strasbourg, 20 degrés à Grenoble et 21 degrés à Tarbes.
Question du jour sur RTL.fr. Emmanuel Macron a-t-il raison de supprimer l'ENA? Eh bien, vous êtes 56% à dire oui. Il y a 28% de non. On attend vos arguments, vos témoignages, vos appels au 3210. Bonjour Pascal.
Bonjour Christelle. Mais effectivement, on va parler de l'AstraZeneca une nouvelle fois au menu des auditeurs. Les moins de 55 ans vaccinés contre la Covid-19, vous l'avez dit, avec une première dose, auront leur seconde avec un autre vaccin. Je vous rappelle qu'il y a deux mois, ce même vaccin était interdit au plus de, en tout cas pas recommandé, au plus de 60 ans. Aujourd'hui, c'est quasiment le contraire. Le début des vacances scolaires dans quelques heures pour les trois zones. Vous allez nous dire comment ça se passe chez vous. La question de l'ENA, bien sûr. Et puis, Jean-Paul Belmondo qui fête aujourd'hui ses 88 ans. Quel est votre film préféré avec Belmondo? Un sourire, un charme, une grâce. Force et douceur. Viril mais correct. Belmondo traverse les décennies. Il est immortel, magnifique, incorrigible.
Viril. Au 32-10, RTL vous donne la parole.
Encore une nouvelle expérience à laquelle nous contraint le Covid. Les vacances scolaires de printemps, en même temps, pour les trois zones. Elles débutent dans quelques heures. Et pour s'évader, changer d'air, vous n'aurez pas le droit de dépasser les 10 km autour de chez vous. Des vacances semi-confinées. Comment les Lyonnais, par exemple, envisagent-ils cette parenthèse? Frédéric Perruche est parti à leur rencontre.
On va rester à Lyon, à la maison. On va se promener dans Lyon, on va faire des activités. Parc de la Tête d'Or, balade sur les quais, petit jardin. Ça va être un peu la même chose que les mercredis et les week-ends classiques. Mais on avait prévu une semaine de vacances dans le sud et on a annulé finalement. On fera plus tard quand tout ça sera terminé. Et voilà, on en profitera, mais on n'a pas envie de prendre le risque de se retrouver là-bas, d'être contrôlé. Donc on reste à la maison.
Oui, ça va être les grands-parents. Ils vont faire des balades, profiter du jardin, faire des jeux société. Moi, je penserais quelques jours pour les garder, pour soulager les grands-parents, mais sinon, c'est tout.
Je vais rester sur Lyon. Je vais peut-être partir 5 jours à la campagne. C'est un peu pénible, le confinement, parce que on peut pas aller hyper loin. Mais bon, je vais rester sur Lyon et je vais jouer un peu au foot.
La première semaine, je reste à Lyon, donc je vais faire un stage au tennis. Après la deuxième semaine, on est encore à Lyon. Bon, bah, c'est pas la même chose que les dernières vacances, parce que les dernières vacances, on bougeait plus, quoi.
Pas terrible, ces vacances?
Non, c'est pas terrible, mais c'est mieux que rester à l'école, quoi.
Pas terrible peut-être, mais en tout cas, ils sont civiques. Vous pouvez aussi accompagner vos enfants chez des membres de votre famille en cochant sur l'attestation le motif « garde d'enfant ». Ça vous autorise à changer de département si besoin. Mais quel document faut-il fournir exactement, Guillaume Chiez?
Alors, le seul document que les policiers ou les gendarmes peuvent vous demander, en plus d'une pièce d'identité, c'est l'attestation de déplacement dérogatoire. En revanche, pour éviter que le contrôle ne s'éternise et surtout pour prouver votre bonne foi, n'hésitez n'hésitez pas à emporter avec vous d'autres documents, un livret de famille par exemple, ou une lettre de vos enfants si vous êtes grands-parents et que vous vous déplacez pour garder vos petits-enfants. Et pour les couples divorcés, prenez une copie du jugement qui précise le type de garde qui a été défini. Tout cela n'a pas de caractère obligatoire, mais ça aidera à prouver que vous êtes dans votre bon droit. Et si vous comptez vous déplacer en trichant sur les raisons de votre voyage, sachez que les forces de l'ordre commencent à être rodées depuis un an et sans mener une grande enquête, elles sont capables de détecter les tromperies et de dresser une amende de 135 euros.
Guillaume Chiez. Encore 3 semaines de semi-confinement, le pic sanitaire n'est pas encore atteint, expliqué sur RTL ce matin Olivier Véran, le ministre de la Santé, mais les chiffres se stabilisent.
Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les efforts des Français, ils seront payants. Ils commencent à montrer une inflexion de la dynamique de circulation du virus, notamment d'ailleurs dans les départements dans lesquels nous avions pris les mesures dès le 20 mars, donc dans les départements franciliens ainsi qu'en Hauts-de-France.
Donc là, il y a un léger reflux.
Je ne dirais pas reflux, je dirais une tendance à la stabilisation. Je suis extrêmement prudent, Alba Ventura. Je ne veux pas donner le mauvais message aux Français. Le seul message qu'il nous faut retenir, c'est qu'il faut continuer de rester sur nos gardes, il faut continuer de respecter les mesures de freinage. C'est beaucoup trop tôt pour relâcher quoi que ce soit, sinon ça repartira direct.
Olivier Véran avec Alba Ventura. Et les règles changent à nouveau pour le vaccin AstraZeneca. 533 000 personnes âgées de moins de 55 ans, en particulier les soignants, qui avaient déjà reçu une première dose, recevront une deuxième dose avec un autre vaccin, celui de Pfizer ou celui de Moderna. Odile Pouget, franchement, on a un peu de mal à s'y retrouver.
Alors c'est vrai que le parcours de ce vaccin, qui sur le papier a tout pour plaire, peu coûteux, facile à stocker, est assez chaotique. Souvenez-vous, juste après son autorisation. Début février, il était réservé en France aux moins de 65 ans, faute de données sur son efficacité pour chez les plus âgés. Un mois plus tard, son utilisation était élargie à tous les âges. Mi-mars, coup de théâtre, le vaccin est suspendu quelques jours après les signalements en Europe de cas graves de formation de caillots sanguins, cas extrêmement rares. En France, par exemple, c'est 6 cas pour plus d'un million d'injections. Hier, l'Agence européenne des médicaments confirme qu'il y a bien un lien, mais pour elle, le vaccin reste sûr et efficace, avec un bénéfice qui l'emporte très largement sur le risque. Cela n'empêche pas chaque pays d'avoir sa propre stratégie. Par exemple, le Danemark et la Norvège maintiennent la suspension d'AstraZeneca. La Grande-Bretagne le recommande aux plus de 30 ans, quand c'est possible. L'Italie et l'Espagne aux plus de 60 ans. Quant à la Belgique, elle est sur la même ligne que nous, c'est-à-dire plus de 55 ans.
Quelle cacophonie quand même. Merci Odile. Alors, une deuxième dose d'un autre vaccin, ça mérite quelques éclaircissements. Bonjour Jean-Daniel Lelièvre.
Bonjour.
Vous êtes chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, expert auprès de la Haute Autorité de Santé qui vient donc de prendre cette décision. Pour quelle raison ?
Bien, parce qu'il fallait bien recommander quelque chose pour les gens qui avaient reçu une première dose de vaccin par AstraZeneca. On sait qu'une seule dose n'est pas suffisante pour assurer une protection au long cours. Il était difficile d'envisager de faire une deuxième dose d'AstraZeneca et donc d'où la décision de recommander un vaccin ARN.
Mais alors, quand on mélange des vaccins qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière, on se demande tous s'il y a un risque avec ce type de panachage, si j'ose dire.
Alors, vous utilisez plusieurs termes qui ne sont pas des termes adaptés. Il n'y a pas de mélange et il n'y a pas de panachage. Je m'explique. Oui. Tout d'abord, ces vaccins ont des profils de sécurité qui leur sont propres. Il n'y a aucune raison de penser que de les utiliser de manière séquentielle va changer quelque chose à leur profil de sécurité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, même si les plateformes, c'est-à-dire la manière dont on va présenter ce qui va induire une réponse immunitaire que nous on appelle un antigène est différent. Ce que l'on met dans le vaccin, au final, ce que le vaccin va coder est exactement la même chose, la protéine spike. Et donc on va présenter au système immunitaire à deux moments différents, de nouveau, la même protéine. Donc en ce sens-là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une expérience assez large avec ce type d'approche dans d'autres stratégies vaccinales, notamment contre le VIH, mais également contre Ebola, qui montrent que, quand on utilise des plateformes différentes pour présenter le même antigène, on a une réponse immunitaire au final qui est plus importante.
D'accord. Donc vous nous dites il n'y a pas de problème. Et pourtant l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a expliqué dans la matinée, il y a à peine une heure, qu'il n'y avait pas de données adéquates sur l'interchangeabilité des vaccins.
Ce n'est pas l'interchangeabilité. L'OMS dit ce qu'elle pense, j'entends bien ce que dit l'OMS. Pour autant, on a des données, on n'a pas de données chez l'homme, on a des données dans les modèles animaux qui montrent que ce type de stratégie, notamment qu'on utilise un vaccin AstraZeneca et qu'ensuite on fait un vaccin ARN, on augmente de manière importante l'immunogénicité. Mmh. Et encore une fois, dans d'autres modèles, notamment dans le cadre du VIH ou de l'Ebola, on a beaucoup de données depuis plusieurs années qui montrent que ce type d'approche est intéressante. Et pour tout vous dire, je mène dans le cadre d'une structure qu'on appelle le VRI, un nouvel essai de vaccination anti-VIH qui repose sur des stratégies un petit peu analogues qu'on appelle de prime boost hétérologue.
Mais vous vous rendez bien compte, monsieur Lefièvre, de la défiance que ça va susciter contre le vaccin AstraZeneca?
Alors, peut-être que ça va créer une défiance, mais on n'est pas là pour créer de la défiance ou de la confiance. On est là aussi pour expliquer aux gens, à la population, les données scientifiques que l'on a. Mmh. Les données scientifiques que l'on a, vous les avez rappelées tout à l'heure. Au début, on n'a pas recommandé ce vaccin chez les plus de 65 ans parce qu'on n'avait pas les données. Donc, on ne recommande pas. Ensuite, on est informé par l'EMA et ensuite par la NSM d'un signal avec des manifestations qui sont rares, mais qui sont présentes chez les gens les plus jeunes qui ont reçu ce vaccin. Et donc, on prend la décision de ne pas recommander chez les gens les plus jeunes ce vaccin. Et dès lors, il faut proposer quelque chose derrière.
Il faut proposer une alternative, ça j'entends bien. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus de patients qui voudraient choisir leur vaccin. Est-ce que c'est envisageable ou pas du tout, ça?
Alors, pour certains, c'est envisageable, mais ce signal qui a été présent semble toucher essentiellement les gens les plus jeunes. Oui. Les gens les plus âgés, il n'y a pas de signal en faveur d'un risque quelconque avec ce vaccin et avec une efficacité de ce vaccin qui est remarquable. Donc, une fameuse balance bénéfice-risque qui n'est pas discutable chez les gens qui sont âgés. Donc, oui, il n'y a aucune raison d'avoir une défiance spécifique envers ce vaccin. Oui. Il y a juste un signal pour les gens les plus jeunes. Pour les gens les plus jeunes, on a la possibilité d'avoir d'autres vaccins.
Utilisons d'autres vaccins. Merci beaucoup. Merci Jean-Daniel Lelièvre, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Il y a eu 437 000 injections dans la seule journée d'hier, l'équivalent d'un département français. Se féliciter ce matin Olivier Véran sur RTL. Le ministre délégué au PME, lui, est en visite à Strasbourg ce matin auprès des petits commerçants qui ont dû baisser le rideau et qui croulent sous les stocks, Yannick Collant.
Oui, dans la vitrine de la boutique Singulière, les robes d'été attendent avec impatience le retour des clientes, mais le vrai problème se situe dans les réserves du magasin. Les invendus des autres saisons s'accumulent, comme l'explique Agathe Lénart, la gérante, à Alain Grézé, le ministre délégué au PME.
Et la différence de stock, c'est quoi en plus? Il y en a en plus ou pas?
Oui, il y en a en plus.
Beaucoup?
Ouais, vraiment. Alors, je pense que c'est à peu près 3 fois plus que d'habitude. C'est de l'argent qui dort, c'est de l'argent perdu, et du coup, on n'a pas assez de trésorerie pour pouvoir racheter des nouveaux stocks pour la saison d'après, l'année d'après.
Le gouvernement a donc décidé d'une aide complémentaire pour les stocks, comme l'explique Alain Grézé.
Donc, pour vous, en ce qui vous concerne, puisque vous avez eu 10 000 euros de fonds de solidarité au mois de novembre, vous allez toucher 8 000 euros.
C'est clairement un soulagement. Et cette aide-là, permet de respirer un petit peu.
Il y avait une problématique particulière pour les magasins de vêtements, magasins de chaussures, la maroquinerie, les magasins de sport, qui sont des magasins qui travaillent beaucoup avec les saisons. On va leur verser 80% en plus du fonds de solidarité qu'ils vont toucher pour le mois de mars et le mois d'avril. Tous nous ont dit combien ils avaient besoin de trésorerie pour renouveler leur stock.
Et au total, ce sont 35 000 commerces de moins de 50 salariés qui devraient bénéficier de ce dispositif.
Un reportage Yannick Collant. Une pause et dans un instant, on revient sur la question du jour avec Pascal Pro et la suppression de l'ENA.
RTL Midi
avec Christelle Rebière.
Revenons sur la question du jour avec vous, Pascal Pro. Emmanuel Macron a-t-il raison de supprimer l'ENA? Il veut remplacer cette fabrique de présidents, de ministres et de hauts fonctionnaires par un institut du service public plus ouvert.
D'abord, l'ENA forme des beaux esprits qui sont d'ailleurs souvent centrés sur le budget et l'économie plus que sur la littérature ou la philosophie. On peut d'ailleurs le regretter. Mais souvent, ces énarques ont un pouvoir exorbitant sur des secteurs qu'ils ne connaissent qu'à travers des rapports rédigés par d'autres d'autres énarques. Oui. L'ENA est omnipuissant, omniprésent dans l'administration. Elle verrouille le système politique. L'ENA est responsable de l'état profond, cette hydre administrative qui se met en travers du politique. Alors la solution, ce serait imposer sans doute aux élèves diplômés un parcours de 3 ans, de 5 ans dans l'entreprise, au contact du réel, avant de pouvoir briguer un poste dans la haute administration. Vous n'imaginez pas un entraîneur de football qui n'ait jamais été un joueur de foot. Eh bien, à Bercy, on a Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui n'a jamais été dans une entreprise et qui n'a jamais été dans le privé et qui en parle plutôt bien pourtant.
Oui, et Bruno Le Maire, justement, qui est narque, effectivement, affirme que cette décision de supprimer l'ENA, même symbolique, c'est un point de départ pour une transformation en profondeur de l'état, de ses missions et des déroulés de carrière. Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, elle ne voit pas en quoi ça va changer ce qu'elle appelle la méritocratie.
Je pense que c'est un coup de com'. J'imagine que tout ça, cette annonce un peu précipitée qui tombe d'ailleurs, d'on ne sait où, est probablement fait pour faire oublier quelques difficultés gouvernementales. Moi, je pense que c'est l'état d'esprit qui doit changer, la capacité de s'ouvrir aux classes populaires, qui doit changer, c'est recréer la méritocratie. Il faut éviter, encore une fois, les transferts entre la haute fonction publique, les grandes entreprises en permanence, qui créent des conflits d'intérêts incontestablement. Il y a pas mal un certain nombre de mesures à mettre en œuvre. Mais enfin, il s'agit là que de changer le nom. Hein.
Marine Le Pen au micro RTL de Marie Mollet. Alors dites-nous ce que vous en pensez au 32-10. Vous aurez la parole dans 17 minutes. Marine Le Pen qui a confirmé ce matin, même si ce n'est pas une surprise, qu'elle était bien candidate à l'élection présidentielle. À quoi va ressembler le millésime 2021 ? Les bourgeons venaient tout juste d'éclore sur les vignes que l'année est déjà compromise. Du Bordelais à la Bourgogne, en passant par la vallée du Rhône, le Languedoc, le Val-de-Loire, le Jura, partout. Le gel de ces derniers jours a fait des ravages. Patrice Gabart, vous êtes chez un viticulteur qui fait du muscadet près de Nantes et les dégâts sont énormes.
Oui, depuis ce matin, dans chacune des parcelles qu'il examine minutieusement, Pierre-Yves Nouette du domaine de la Cognardière au Palais fait le même constat.
Bon là, c'est assez simple. Malheureusement, tous les bourgeons sont cramés. Il suffit de les toucher. Déjà, l'aspect, hein, il est un peu gris. Et en fait, ils sont mous, ils sont cuits. Sur une baguette de 9-10 bourgeons, à mon avis, il y en a peut-être deux de sauvés, peut-être. C'est surtout, en fait, le gel d'hier, hier matin, qui a été hyper violent. Ça a un peu frappé un peu partout, là. Je suis vraiment surpris parce que j'ai même un secteur qui est pas sensible au gel. Et puis là, j'ai constaté que je suis au moins à 80% touché, quoi. Ah ouais, non, mais là, là, le moral en prend un coup. Non, non, là, on a pris cher, je pense, ouais.
Il est encore trop tôt, bien sûr, pour faire un bilan précis de ce gel dévastateur, mais sur les 10 hectares de vignes qu'il a déjà vus, soit un peu moins de la moitié de l'exploitation familiale, un seul serait épargné. Et malheureusement, ce n'est pas terminé.
Parce qu'on est encore lundi, avec un moins 2 et un week-end pluvieux. C'est-à-dire que si on a moins 2 avec de l'humidité, on va accentuer le phénomène de gelée. On a le risque de geler à 100% sur notre exploitation lundi matin. Ouais.
Alors sa mission désormais, c'est de renouveler les bougies et de remettre des bottes de paille pour sauver ce qui peut encore l'être.
Alors, reportage Patrice Gabart. Partons à l'autre bout de la France, dans le département de l'Hérault. Nous sommes en ligne avec Guilhem Vigroux, viticulteur dans le Pays d'Oc. Bonjour.
Bonjour.
Les vignerons, comme vous, les arboriculteurs, certains céréaliers, parlent d'un épisode de gel rarissime. Est-ce que vous, vous aviez déjà connu ça ?
Écoutez, ça fait 20 ans que je suis installé. Nous avons connu des petits épisodes de gel, comme on avait l'habitude, entre guillemets, de pouvoir l'avoir. Donc, de cette ampleur-là, de cette intensité-là, nous n'avons jamais connu ça. Jamais.
Alors, justement, quels sont les dégâts sur vos vignes ? Vous, vous avez une quarantaine d'hectares, c'est ça ?
Oui, absolument. Alors, écoutez, c'est très simple. J'ai 95% de mon exploitation touchée à 95%. Donc c'est assez facile à retenir. Aujourd'hui, j'ai écouté le reportage juste avant, il y a un viticulteur qui dit là qu'il avait encore un hectare. Moi, je dois avoir à peu près un demi-hectare sur 40 hectares, voilà, à peu près. Je dis bien à peu près. Je ne suis même pas sûr de pouvoir les avoir encore d'ici lundi.
Vous ne l'aviez pas vu venir, cet épisode de gel, ou vous n'avez rien pu faire ?
Non, en fait, on l'a vu venir, bien sûr. On l'a subi parce que les surfaces sont largement supérieures et on n'a pas l'habitude, chez nous, on n'a pas une culture.
Oui,
premièrement,
vrai.
On peut très bien par l'aspersion, mais faut-il encore avoir de l'eau pour asperger les vignes et pour faire diminuer la degré. Ensuite, nous avons une température qui est descendue à moins 5 degrés. Et même si nous avions pu recourir à des bougies, ce type de phénomène de bougie-là n'aurait pas pu nous permettre de sauver nos récoltes. Et je vous rappelle qu'on est sur des surfaces qui sont relativement grandes, avec des valeurs ajoutées des fois qui sont assez faibles. Et le le coût de la bougie est très, très élevé.
Et c'est vrai qu'en général, vous, vous êtes plutôt victime de la grêle, hein, beaucoup plus rarement du gel. Est-ce que vous avez déjà une première estimation de ces dégâts en ce qui vous concerne ?
Écoutez, moi, oui, de toute façon, c'est, quand vous faites 100% d'un chiffre d'affaires, c'est assez rapide. On va dire que c'est aux alentours de 250 000 euros sur mon exploitation. À l'échelle du département, ça va être dans les 200-250 millions d'euros.
Oh, mais c'est colossal!
Oui, ben, c'est à l'échelle du désastre départemental, mais même, j'inclus mes copains d'Occitanie, je pense que sur l'ex-Languedoc-Roussillon, nous sommes à peu près à 5 à 6 millions d'hectos de pertus. Si vous faites avec une moyenne, hein, on va faire un schématique à 100 euros l'hecto, vous allez chercher d'aller 500 à 600 millions d'euros. Oui.
Le gouvernement va déployer le régime de calamité agricole. Qu'est-ce que ça va changer ?
Franchement, pour les viticulteurs, rien. On va se répondre, il faut arrêter de mentir aux viticulteurs. Les viticulteurs, on ne rentre pas dans le régime des calamités agricoles, puisque c'est un risque assurable. Ouais. Les arboriculteurs, nos amis arboriculteurs pourront en bénéficier, je le souhaite réellement, pour les aider. Pour la viticulture, ça ne va pas changer grand-chose. Je crois qu'il faut arrêter de faire rêver les agriculteurs, c'est très important. Il va y avoir des aides. Alors, aujourd'hui, on a des incantations de parlementaires et de sénateurs. J'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout. Je pense qu'il va falloir avoir une réflexion dans le temps très court. Je vous garantis que les viticulteurs qui vont avoir besoin d'un soutien psychologique. Ça, c'est de temps très court, c'est dans les jours qui arrivent, les heures qui arrivent. Un temps un peu moyen, on va dire, ce sont les aides à la trésorerie, peut-être, accordées par les banques et à travers du PGE. Et un temps plus long, où il va falloir qu'on se pose autour d'une table et qu'on discute maintenant d'une résilience de nos exploitations.
Eh ben, merci beaucoup d'avoir témoigné sur RTL, Guilhem Vigreux. On reprendra de vos nouvelles dans vos prochaines semaines pour voir comment tout ça s'organise. Merci, à bientôt.
Merci. Merci.
Une pause et dans un instant, un braquage au prestigieux hôtel Georges V à Paris.
RTL Midi,
avec Christelle Rebière.
Braquage au Palace, le célébrissime hôtel Georges V, près de l'avenue des Champs-Élysées à Paris, a été pris pour cible par deux individus armés. Ils sont repartis, Alice Moreno, avec 100 000 euros de bijoux.
Oui, c'est un binôme ultra efficace qui s'est emparé des joyaux du Palace. Ces deux hommes arrêtent leur scooter hier soir, un peu après 21h devant le 5 étoiles, casqué et ganté. Le passager descend du deux roues, fait irruption dans le hall avec une arme de poing. Il met en joue un vigile et un agent d'accueil qui se trouve là. Puis il fonce sur la vitrine à bijoux qui trône dans l'entrée. Il la brise avec une hache, se saisit de la joaillerie de luxe, sélectionne les plus belles pièces de la collection de la marque Van Cleef & Arpels, ce qui laisse penser qu'il avait fait des repérages en amont. Il rafle l'équivalent de 100 000 euros. Tout ça en seulement quelques minutes. Il ressort avec son butin, enfourche le scooter où l'attendait toujours son complice. Tous deux s'évaporent, passent hors des radars des équipages police-secours qui sont à leur trousse. La brigade de répression du banditisme de la police judiciaire parisienne est saisie de l'enquête.
Récit Alice Moreno.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons chez les Vikings à Toulouse. Non, il n'y a pas d'erreur géographique. Une poignée de jeunes ingénieurs va construire un drakkar et ils veulent même traverser l'Atlantique jusqu'à New York. Patrick Tégéraud, vous nous emmenez à la découverte de ces bâtards.
Alors oui, ne vous méprenez pas, bâtard signifie bateau en islandais. C'est le nom de l'association aussi qui porte ce projet fou. Il et elle se sont connus en classe prépa ou en école d'ingénieur il y a plus de 10 ans. Ce sera leur troisième drakkar. Arnaud Huvelin est un start-upper, il préside l'association où on se donne des prénoms nordiques. Alors, adieu Arnaud et bonjour Bjorn.
Les Vikings, ils pratiquaient la parité. C'était des ingénieurs chevronnés. Ils avaient la goût de l'aventure. C'était des stratèges fins. Enfin. Et donc, du coup, ils nous ont fascinés par leur capacité à collaborer avec les autres et à réaliser des projets hors normes. Et donc, c'est comme ça que nous, on se définit aujourd'hui, le collectif Bâtard. C'est un collectif d'ingénieurs, entrepreneurs, docteurs qui utilisent l'ingénierie pirate pour réaliser des projets hors normes.
Il faut augmenter le nombre de bâtards pour construire le plus grand et le plus rapide vaisseau viking. 28 mètres de long, 180 mètres carrés de voile.
Pour nous aider à soit venir construire le bateau, ou soit nous faire rencontrer des investisseurs ou des financeurs. Parce qu'on a besoin, du coup, pour ce projet-là, d'un peu plus de 2 millions d'euros.
Début de la construction cet été, puis ce sera un Toulouse-New York via l'Écosse, l'Islande, le Groenland, dans le sillage des Vikings.
Et ça nous fait bien rêver. Merci Patrick. Pascal Pro, vous dialoguez avec les auditeurs dans quelques minutes.
Alors, AstraZeneca, évidemment. Tous les jours, on dit que c'est un vaccin mal aimé et tous les jours, on imagine que les gens ont de moins en moins envie de se faire vacciner. Ce sera un de nos thèmes du jour. L'autre question, c'est les nages. Je ne sais pas si ça passionne ou pas, d'ailleurs, nos auditeurs. Les vacances à 10 km près de chez soi, comme ça, on ne va pas trop dépenser d'argent. Et puis, Jean-Paul Belmondo, 88 ans. Le magnifique, l'incorrigible.
À tout de suite. La météo, Valérie Quintin, votre carte est bien chargée, franchement.
C'est vrai qu'il y a un petit peu de tout cet après-midi. Alors, je vais commencer par le soleil. On va le trouver surtout des Alpes à la Méditerranée. Mais on aura aussi de très belles éclaircies entre le nord et le nord-est. Et à contrario, des pluies sont arrivées, plutôt des grains orageux assez localisés sont arrivés par le sud-ouest et d'autres arrivent par la pointe bretonne. Donc, sur la moitié ouest, c'est vrai que ça va être de plus en plus chargé avec des grains qu'on trouve pour l'instant entre la Touraine, le Pays Nantais ou encore en Dordogne. C'est vraiment très localisé. Ce sera le cas tout l'après-midi. Les températures, ça monte un peu. 15 degrés à Caen et Aurillac aujourd'hui, 17 à Paris et Reims, 18 à Ajaccio, 20 degrés à Mulhouse, 21 degrés à Clermont-Ferrand et 22 à Biarritz.
Et ce week-end, alors moins froid, mais franchement, il va pleuvoir énormément.
Voilà, sans arrêt. Alors, on va plus avoir de gelée dès demain matin. D'ailleurs, c'est terminé. Mais c'est vrai qu'on aura un ciel très chargé tout le week-end, des pluies assez fréquentes samedi comme dimanche. Demain, on peut espérer un petit peu de soleil entre les Pyrénées et l'Alsace, en passant par l'Auvergne, la Bresse ou encore la Franche-Comté. Dimanche, on va tous y avoir droit à un moment donné ou à un autre, puisque des pluies vont traverser le pays d'ouest en est. Quant aux températures, c'est vrai qu'elles seront douces. On n'aura pas de gelée la nuit. 11 à 12 degrés en moyenne sur la moitié nord la journée, pour la moitié nord donc, et 15 à 16 pour la moitié sud.
Ah, merci Valérie.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
AstraZeneca, et si vous avez moins de 55 ans et si vous avez une première dose d'AstraZeneca, vous n'aurez sans doute pas la seconde. Nous sommes avec Benjamin qui est pharmacien dans le Pas-de-Calais.
Oui, bonjour Pascal.
Et vous êtes exactement dans la cible.
C'est ça.
Donc vous n'aurez pas le droit à la deuxième.
Non, j'en ferai un autre, c'est pas grave.
Bah écoutez, rien n'est grave, sauf la mort, paraît-il. Christelle, le rappel des titres.
C'est prometteur. Encore de nouvelles règles, on en parlait
c'est
à l'instant.
C'est Sacha Guitry qui disait cela.
Pour le vaccin AstraZeneca, les moins de 55 ans déjà vaccinés avec une première dose auront leur deuxième avec un autre vaccin, effectivement, Pfizer ou Moderna. C'est une annonce ce matin de la Haute Autorité de Santé. Ça concerne un peu plus de 500 000 personnes. Le vaccin pour les moins de 55 ans avait été suspendu le 19 mars pour des cas de thrombose. Le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, va lancer le régime des calamités agricoles pour aider les arboriculteurs. Les pertes dues au gel de ces derniers jours s'annoncent colossales. Les élections régionales auront-elles vraiment lieu au mois de juin? Le président Les Républicains du Sénat, Gérard Larcher, demande leur maintien les 13 et 20 juin. Mais son homologue de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, plaide lui pour un report. Dans l'affaire des dîners clandestins au Palais Vivienne à Paris, le propriétaire Pierre-Jean Chalençon et le restaurateur Christophe Leroy sont en garde à vue au lendemain d'une perquisition. Une enquête avait été ouverte par le parquet de Paris pour mise en danger de la vie d'autrui et travail dissimulé. Les auditeurs.